Giraud est économiste, directeur de recherche au CNRS, jésuite, président d'honneur de l'Institut Rousseau. Il a été chef économiste de l'Agence française du développement pour le développement de 2015 à 2019, c'est-à-dire récemment. Après une première thèse en mathématiques appliquées, il vient de terminer une thèse sur la théologie politique des communs à l'ère anthropocène. Je précise que l'anthropocène est un nom donné à notre période géologique actuelle, une période marquée par une incidence massive des activités humaines sur l'écosystème terrestre. Cette période, alors elle démarre, tous les chercheurs ne sont pas d'accord, comme vous l'avez précisé Gaël, elle démarre soit à l'apparition de l'agriculture il y a 13 000 ans, soit pour d'autres à la révolution industrielle au XVIIIe siècle, soit encore pour d'autres à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. En tout cas, le nom anthropocène, c'est peut-être ça qui nous intéresse, le nom même crée un lien et interroge le lien entre les humains et leur lieu d'habitation, la Terre. Et quant aux communs, donc la politique des communs à l'ère anthropocène, les communs, donc, ça convoque la notion d'objet, et un objet qui serait à partager, qui interroge les notions de propriété, de communauté, d'usage, d'échange, de jouissance, de politique, etc. Donc autant de thèmes, je crois, qui résonnent auprès de nos oreilles analytiques. Voilà, ben, je vous laisse la parole, Gaëlle, et je suis vraiment ravie que vous ayez accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais parler... sans savoir en fait à qui vraiment je m'adresse, puisque je ne suis pas du tout un praticien et un familier du monde psychanalytique, même si j'ai lu un petit peu, je pense, comme tout le monde. Mais... Donc, je suis très, très intéressé par la discussion qu'on pourra avoir après mon intervention. Donc, la proposition, c'est que je parle peut-être une petite quarantaine de minutes et ensuite, je serai ravi de vous écouter. Je me suis dit finalement, pour vous faire cette présentation ce soir, le plus simple, c'est peut-être que je vous déplie un tout petit peu l'argument qui est dans ma thèse de théologie politique. On y verra, je crois, les choses qui vous intéressent. Voilà. Disons qu'il y a un versant qu'on pourrait dire cosmopolitique ou cosmozoopolitique, qui est qu'il y a un diagnostic à la crise écologique actuelle, crise qui est absolument désastreuse. Hein. Donc, juste pour remettre ça en mémoire de tout le monde, dans la mémoire de tous, le GIEC, comme vous le savez, a pris l'habitude de scénariser ses prospectives avec des grands scénarios, les RCP. Il y en a quatre. Le RCP le plus pessimiste, c'est le RCP 8.5. C'est celui sur lequel nous sommes embarqués. Il nous envoie beaucoup plus que plus 2 degrés à la fin du siècle, plutôt plus 4, plus 5, peut-être même davantage. Si le RCP 8.5 devait se réaliser, c'est-à-dire si nous continuions à ne pas faire grand-chose pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, une bonne partie, la quasi-totalité de l'Indonésie, même de l'archipel de l'Asie du Sud-Est, devient inhabitable avant la fin du siècle. Tout le littoral indien, une partie, la frange de l'Est, de l'Afrique de l'Est, la quasi-totalité du bassin du Congo, du golfe de Guinée, du bassin d'Amazonie, de l'Amérique centrale. Et sur la côte sud-est des États-Unis et la côte est de la Chine, autour de Shanghai, Shenzhen, etc., vous avez à la fin du siècle un jour sur trois où les humains qui seront encore là seront soumis à des conditions à une combinaison de température dans la journée et d'humidité dans l'atmosphère qui est létale pour le corps humain si on est exposé plus de 6 heures par jour. Dans un contexte où vous vous doutez bien qu'on ne pourra pas se protéger avec l'air conditionné, puisque l'air conditionné est extrêmement émetteur de CO2. Donc, ce dont nous parlons là, c'est une véritable catastrophe environnementale qui va au moins générer quelque chose comme 2,5 milliards de réfugiés dans la deuxième moitié de ce siècle. Ça, c'est le chiffre de la Banque mondiale. Et si on tient compte de ce que je viens de vous dire sur l'impact, disons, de la zone tropicale qui sera globalement inhabitable, ça risque d'être encore beaucoup plus. Alors, le diagnostic sous-jacent à ce désastre-là, programmé, c'est l'absolutisation de la propriété privée. Un exemple très simple, si vous êtes propriétaire aux États-Unis de votre jardin, que vous découvrez du pétrole dans le sous-sol de votre jardin, personne ne peut vous interdire d'extraire le pétrole et de le brûler, et donc de contribuer à l'accélération du réchauffement, au nom de la défense de la propriété privée. Et vous le savez, privés, bon, dont la formulation juridique remonte à l'Empire romain, c'est des juristes romains les premiers, hein, qui formalisent le droit de la propriété privée, notamment dans le code Justinien, qui sont ensuite repris par des glossateurs et des juristes et des théologiens pendant la réforme grégorienne au XIe siècle. La propriété privée, d'une certaine manière, transfère dans la relation homme-chose quelque chose de très spécifique qu'on trouve dans la relation maître-esclave. Le maître a droit de vie ou de mort sur son esclave. Il peut le revendre, il peut le mutiler. La cruauté dans l'Empire romain n'est pas permise, mais bon, où commence la cruauté ? C'est le lieu d'un jugement, d'un discernement qui n'est pas simple. Et donc, les théologiens du XIe siècle, au moment de la réforme de Grégoire VII, la réforme grégorienne, vont diviser la propriété privée en trois composantes, l'usus, le fructus et l'abusus, qu'on retrouve déjà dans la relation maître-esclave. Donc, vous avez des anthropologues qui, si je comprends bien le débat historique, ne disposent pas d'éléments, disons, de documents qui pourraient attester de cette origine de manière complètement formelle, mais en tout cas font l'hypothèse que l'invention de la propriété privée provient d'un transfert dans la relation homme-chose de la relation maître-esclave, la relation humain-humain. Parce qu'au fond, si vous y réfléchissez, le droit de propriété privée, c'est quelque chose de très étonnant, parce que c'est un droit qui vous dit « j'ai le droit de faire des choses, quelque chose avec ma chose, et personne d'autre n'a ce droit ». Donc c'est un droit qui est construit sur l'exclusion de tout autre. Alors, comme certains le remarquent un peu avec ironie, c'est vrai que si je suis le propriétaire d'une tronçonneuse, en réalité, je n'ai pas le droit de faire ce que je veux avec ma tronçonneuse. Je ne peux pas descendre dans la rue et, par exemple, menacer un CRS avec ma tronçonneuse. Ce n'est pas possible. Donc, en réalité, il y a des limites à cette absolutisation du propriétaire privé. Mais si on regarde le Code civil napoléonien de 1802, si vous regardez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, et la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1848, vous y verrez, vous voyez bien que le droit de propriété privée est considéré comme un droit sacré et inaliénable, et donc est placé très très haut dans ces différentes réécritures du droit canonique et du droit naturel. Et c'est, je fais exprès de dire ça, puisque c'est pour déjà suggérer qu'il y a un impensé théologique dans cette affaire, puisque les déclarations des droits de l'homme sont en réalité la transposition dans le monde sécularisé de la fin du XVIIIe, de ce que les théologiens, disons, médiévaux et modernes, appellent le droit naturel. Et les codes civils, le code civil napoléonien, par exemple, sont la transcription, dans le cadre de l'État, par exemple français, du droit canonique, rédigé pour la première fois sous Grégoire VII à la fin du XIe. Autrement dit, le premier État moderne en Europe, c'est l'Église, paradoxalement. Que ça nous fasse plaisir ou non. Je ne dis pas ça. C'est pas une remarque qui serait, comment dire, animée par une espèce de volonté prosélyte de je ne sais quoi, pas du tout. C'est des historiens du droit qui reconnaissent ça. Le pape Grégoire VII invente pour la première fois la monarchie de droit divin au XIe, et le premier monarque de droit divin, c'est le pape. D'ailleurs, c'est le seul qui reste aujourd'hui, d'une certaine manière, sur notre planète, puisque le droit canonique, comme vous le savez, a très peu évolué depuis le Concile de Trente, en vérité. Alors, donc tout ceci pour dire la propriété privée est certainement une des racines de l'énorme crise écologique dans laquelle nous sommes embarqués. Alors, j'ai cité tout à l'heure l'exemple du propriétaire privé de son jardin, mais vous en avez plein d'autres. Lorsqu'une riche famille à Wuhan mange du pangolin, elle s'arroge le droit de le manger. Ce faisant, elle contracte le virus SARS-CoV-2. Que nous connaissons tous maintenant, et elle va le transmettre au reste, à la totalité du reste de l'humanité, probablement, une grande partie du reste de l'humanité. Et donc là aussi, il y a quelque chose à interroger, c'est-à-dire que comment relativiser ou au nom de quoi pourrait-on mettre des limites à l'exercice de droit de propriété privée d'une famille qui a acheté un pangolin pour le manger au nom de la santé du reste de l'humanité ? Donc c'est une question, on pourrait dire, anthropologique, politique, juridique majeure sur laquelle aujourd'hui il n'y a pas de réponse très très claire. Oui. Alors, dit encore autrement, de mon point de vue, la séquence historique dans laquelle nous sommes embarqués en Occident depuis une quarantaine d'années maintenant, que pour ma part je qualifierais volontiers de post-libérale, parce qu'en réalité elle n'est pas du tout néolibérale, elle est en rupture complète avec le projet du libéralisme du XVIIIe siècle, cette séquence-là cherche, disons, quelque chose comme la privatisation du monde, donc la réduction de la totalité de ce qui existe autour de nous à l'état de marchandises privées, qui pourraient recevoir un prix, par exemple, et s'échanger sur un marché. Et de ce fait, essaye d'assujettir le droit, par exemple le droit public, le droit de l'État, à la défense d'une économie politique dont l'objectif fondamental est la privatisation du monde.
Oui.
Ça va ? Vous m'entendez ?
Oui,
oui.
D'accord. En un webinaire. C'est une conférence. Une
conférence. Je ne sais pas quel micro est resté ouvert.
Voilà, il y a Margarita qui a le micro ouvert.
Voilà.
Et Margarita parle italien, non ?
Non, il parle le grec, mais son micro est
grec. Ah, pardon. Ok. Ok. Alors. Si on va un cran plus loin, on pourrait dire, il me semble en tout cas, que le fait, si vous pensez à la pandémie du coronavirus, le fait que l'origine du problème, ce soit le rapprochement des humains avec des animaux porteurs de pathogènes, donc fondamentalement c'est la chauve-souris, hein, vous savez, qui est porteuse de tous les coronavirus que nous connaissons, le SARS, le MERS et puis le SARS-CoV-2 actuel, mais il y a à chaque fois un animal transmetteur qui fait le lien entre la chauve-souris et nous. Donc précédemment, c'était la civette palmée, et puis maintenant, c'est le pangolin, probablement. Le fait que ce soit en mangeant le pangolin que nous ayons contracté ceci, de mon point de vue, n'est pas du tout un hasard. C'est-à-dire qu'on pourrait probablement relire la propriété privée comme l'institutionnalisation de quelque chose qui peut-être relève au moins en partie de la pulsion, une pulsion dévoratrice. Je dévore le pangolin. Pourquoi ? Parce que dans cette pulsion, disons, de l'indemnité, du propre, du sauf, de ce qui est pur, de ce qui est sacré, donc c'est Derrida qui a beaucoup écrit là-dessus, dans cette pulsion-là, je refuse l'altérité qui pourrait me contaminer, m'endommager, m'abîmer, me rendre impur, me mutiler, me blesser. Et le meilleur moyen, au fond, de me garantir de me prémunir contre cette contamination possible, c'est d'avaler, c'est de dévorer l'ennemi, le danger, de l'assimiler. Voilà. Et dans cette pulsion-là, il y a quelque chose probablement qui est sous-jacente à ce qu'on observe aujourd'hui, en tout cas le consumérisme contemporain, construit, alimenté par le marketing notamment, de manière complètement artificielle, de façon que la plupart d'entre nous croient qu'ils sont plus heureux parce qu'ils ont deux iPhones, deux écrans d'ordinateur et que sais-je d'autre. Et donc là-dedans, il y a probablement une tendance pulsionnelle qui est animée, qui est en tout cas excitée, et qui est de l'ordre, de mon point de vue, de la dévoration. Je vais y revenir dans un instant. Alors, cette dévoration et son institutionnalisation par la propriété privée fonctionnent comme une maladie auto-immune. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est elle-même qui me contamine, comme on l'a vu avec le coronavirus. Si au fond, j'essaye d'assimiler l'altérité dans le monde en le dévorant et en m'en rendant le maître absolu à travers la fiction du droit de propriété privée, c'est à ce moment-là précisément que je me contamine. De la même manière, ce que le post-libéralisme essaie de faire depuis une quarantaine d'années, c'est-à-dire de généraliser la privatisation du monde, et vous voyez ça d'un point de vue de l'économie politique assez facilement. Par exemple, depuis 3 ans, nous sommes embarqués dans la privatisation de la SNCF, d'EDF, de l'aéroport de Paris, bientôt des routes nationales, et le démantèlement de la Caisse des dépôts pour privatiser la gestion de l'épargne qui est confiée aujourd'hui à la Caisse des dépôts et la confiée aux banques privées. La zone euro est construite sur la privatisation de l'euro, qui a été retirée des mains de l'État, de manière que l'État n'ait plus le droit de frapper monnaie. Et donc la monnaie, qui était au moins jusqu'au début des années 70 en France, un bien public qui relevait de l'administration d'État, aujourd'hui est un bien privé. Je pourrais rentrer dans le détail si vous voulez. Et donc ce projet-là, cet agenda implicite de privatisation du monde, est lui aussi... comment dire en anglais, self-defeating, c'est-à-dire il s'auto-détruit dans l'exercice même de ce qu'il essaie d'atteindre. De la même manière que si je veux me prémunir contre le virus, en fait, en mangeant du pangolin, c'est à ce moment-là que je me contamine. Alors, qui est-ce qui a remarqué ceci le caractère de la privation du monde, c'est un économiste hongrois qui s'appelle Karl Polanyi dans les années 30, dans ce grand livre qui s'appelle La Grande Transformation. Polanyi observe qu'à la fin du 19e, autour de l'Angleterre, lors de la première, disons, globalisation marchande, on essaye déjà de mettre en œuvre, disons, cet agenda de la privatisation du monde et de transformer toute chose, voire les personnes elles-mêmes, en des marchandises privées qui pourraient s'échanger sur un marché. Du côté des personnes, évidemment, vous pensez à le trafic d'esclaves, qui est extrêmement vibrant aujourd'hui dans le monde, le trafic des organes et la prostitution. Donc, Polanyi observe qu'à partir du moment où vous avez trois grandes catégories de ressources symbolico-matérielles qui sont privatisées, ça détruit le lien social, ça détruit tout ce qui nous rapporte, qui nous permet de nous rapporter les uns aux autres. Ces trois grandes catégories, ce sont la terre, et donc on pourrait inclure aujourd'hui l'ensemble des services écologiques qu'elle nous rend, la monnaie et le travail. Si vous, donc la grande thèse de Polanyi, c'est que si vous privatisez ces trois catégories de biens, vous déchirez le lien social et les sociétés des années 30, en Europe en particulier, n'ont pas eu d'autre recours que de s'en remettre à des régimes totalitaires du côté de l'Union soviétique, de la Russie et de l'Union soviétique, du côté de l'Allemagne, le Troisième Reich, du côté de l'Italie, par exemple, le régime mussolinien, etc. Comme tentative de sortie du cauchemar qu'induit dans la société la privatisation du monde. Je crois qu'on peut relire ça un tout petit peu différemment en disant, au fond, il y a une autre grande catégorie qui apparaît, ou en fait deux autres. Il y a la catégorie du privé dont j'ai parlé, c'est celle qui tente d'institutionnaliser cette pulsion de l'indemne, du pur, du propre, du sauf. Et puis vous avez le tribal qui reconnaît, qui pense, vit et analyse le monde avec deux catégories, l'ami et l'ennemi. Les amis, ce sont ceux de ma tribu, les ennemis sont tous les autres. Sur les ennemis, j'ai le droit d'exercer la violence. Ça, c'est Carl Schmitt, typiquement, juriste allemand très proche, enfin national-socialiste, pendant quelques années, dans les années 30. Et puis, la troisième grande catégorie, c'est le public, c'est celle de l'État qui prétend énoncer la loi. Et donc, la combinatoire, à mon avis, qu'on peut esquisser, c'est dès lors que vous tentez de privatiser tout. En fait, vous déchirez le lien social. Il n'y a plus d'autre recours pour les sociétés que de s'en remettre au tribal, comme lieu refuge où je peux recréer avec les amis de ma tribu des liens de solidarité élémentaires sans lesquels je ne peux pas vivre. Et le projet post-libéral qui anime nos sociétés au moins partiellement depuis une quarantaine d'années consiste en l'assujettissement de l'instance publique, l'État, le droit, l'exercice du droit, pour le soumettre à une logique de privatisation du monde qui est vouée à l'échec. Alors, quelle est l'issue de cette affaire-là? J'en sais rien. Nous allons nous-mêmes en être les acteurs dans les années, les décennies qui viennent. Dans les années 30, l'issue, ça a été la construction de ce monstre qu'est l'État tribal, c'est-à-dire l'État arien du côté allemand, par exemple, c'est-à-dire la construction d'un droit qui est promu non pas par la rationalité ou des valeurs universelles, mais par la valeur absolue d'une tribu, d'un clan, en l'occurrence les Aryens, par exemple. Un lieu de vérification de ceci, c'est la thèse d'un intellectuel indien que vous connaissez peut-être, Pankaj Mishra, qui vit à Londres, qui a écrit un beau livre qui s'appelle « The Age of Anger », dont je ne crois pas qu'il soit traduit en français, « L'âge de la colère ». Et lui, sa thèse, c'est au fond les Lumières et la globalisation marchande, et il a tendance un tout petit peu à les assimiler, ont véhiculé dans les années demi-siècle à la fois une aspiration à l'égalité extraordinaire, qui n'était pas forcément très prégnante dans un certain nombre de sociétés. Vous pouvez penser à l'Inde, le système des castes hindous est tout sauf égalité. Donc, d'une certaine manière, les Lumières occidentales transmises à travers la marchandisation du monde et sa globalisation, ont éveillé l'aspiration à cet égalitarisme propre au XVIIIe siècle européen. Et dans le même temps, l'on y est, en organisant justement la marchandisation du monde qui est extraordinairement créatrice d'inégalités, en particulier pour les pays dits du tiers-monde, qui en sont les premières victimes. Donc, ceci génère, d'après Pankaj Mishra, une colère qui n'avait absolument pas lieu d'être il y a 30 ans, et dont la globalisation est à la fois la réponse et la cause. Et moi, je crois que ce qu'on peut observer, c'est que du coup, l'ultime ressource pour ces populations-là, pour, disons pour ces populations en colère, c'est de nouveau la tribalisation. C'est-à-dire, c'est là que vous voyez le nationalisme hindou de Modi, c'est là que vous voyez Boko Haram dans le Sahel, un certain nombre de djihadismes en islam, et puis la tribalisation de nos banlieues. Et du côté des plus favorisés, le repli dans l'entre-soi des gated communities, des classes sociales les plus riches, qui essaient de se protéger à la fois de la colère des peuples et du désastre écologique dans des lieux, des enclaves qui seraient protégés, qui seraient immunisés de nous. Et vous voyez bien que là, il y a de nouveau le fantasme de l'immunisation qui est réinvesti dans cette affaire. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ceci, on peut se demander quel est le rôle du... Est-ce que le christianisme a quelque chose à voir avec tout ça ? Alors, ma position, c'est de dire... en fait, l'expérience chrétienne, inscrite dans l'histoire, est à la fois en partie la cause et une ressource pour répondre à cette situation aujourd'hui. Alors, en partie la cause, pourquoi ? Parce que le christianisme, lui aussi, j'aurais tendance à dire comme toutes les religions, est habité par cette pulsion du propre, du pur, de l'indemne, qui se cristallise dans la catégorie du sacré. Tout ce qui est sacré, c'est ce qui est propre, pur, indemne. Alors, ça n'est pas la totalité de l'expérience chrétienne, mais ça en fait certainement partie. Voilà. Le christianisme est aussi, disons, la tradition religieuse, en Europe en tout cas, qui a rendu possible la réforme grégorienne, hein, au XIe siècle. Donc, la construction pour la première fois d'un État moderne, qui est l'Église, d'une bureaucratie internationale, qui est le clergé, d'un droit, qui est le droit canon. Et tous les droits civils seront construits sur le droit canon et... comment ne pas voir que l'uniforme que portent tous nos bureaucrates dans toutes nos technocraties occidentales est une copie du vêtement ecclésiastique que portaient les prêtres, que portent les prêtres au moins depuis le XIe siècle. Voilà. Donc du coup, c'est difficile de ne pas prétendre que le christianisme n'a pas partie liée avec ceci. La grande question qui se pose, c'est est-ce que ça épuise la totalité de ce que l'expérience chrétienne apporte dans cette histoire ? Ma réponse est non, au sens où il y a à l'intérieur de l'expérience chrétienne une autre branche, donc vous avez la pulsion de l'indemne et du sacré, et puis vous avez une autre expérience spirituelle, pourrait-on dire, qui est l'ouverture à la sainteté. Et donc là, il y a une distinction à opérer, que vous trouvez chez Lévinas, évidemment, hein, c'est plutôt une distinction biblique, qui n'est pas propre aux chrétiens, entre ce qui est sacré d'un côté, ce qui est saint de l'autre. Le saint n'est pas le sacré. La sainteté, disons la sainteté biblique, elle relève d'une expérience complètement différente de la pulsion de l'indemne, qui est plutôt celle de l'ouverture à l'autre dans la confiance. Donc c'est la foi, le crédit, que le risque que je prends en m'ouvrant à l'altérité est une promesse, alors on pourrait dire de joie pour parler avec le lexique chrétien, en tout cas une promesse heureuse plutôt qu'une menace. Alors ceci vaut évidemment à la fois certainement dans la relation homme-femme. Donc, vous voyez bien que, par exemple, le phallocentrisme de l'Église catholique est très, très lié, me semble-t-il, à cette pulsion de l'indemne qui continue de l'habiter, cette pulsion du sacré. Et ce n'est pas du tout un hasard, en tout cas, c'est mon expérience, si c'est plutôt les traditionnalistes très, très attachés à la dévotion pour le sacré qui sont aussi les plus machistes dans notre Église. Et vous avez aussi, par ailleurs, il faut le reconnaître, aujourd'hui c'est un fait historique très, très, très bien documenté, le fait que l'expérience de Jésus, du prophète de Nazareth en Palestine au 1er siècle, est une expérience assez unique dans l'ouverture qu'elle offre aux femmes. Le christianisme est aussi la religion qui, paradoxalement, est l'une des plus ouvertes à l'entrée des femmes dans l'expérience. Voilà. Alors on pourrait déployer, par exemple, dans la relation humain-non-humain, qui intéresse beaucoup la question écologique, vous trouvez dans le livre de la Genèse, en Genèse 1, 28, ce verset qui a suscité beaucoup de commentaires et critiques, « Croissez, multipliez-vous et dominez la terre ». Donc la mise en scène, c'est Dieu parle à Adam et Ève, et leur donne cette injonction de croître, de se multiplier et de dominer la terre. Et comme vous le savez sûrement, un certain nombre de commentateurs, dans les 50 dernières années, en ont tiré qu'on peut accuser le christianisme, en tout cas les traditions bibliques, puisque la Genèse n'est pas propre aux chrétiens, on peut accuser les traditions bibliques d'être responsables de la catastrophe écologique parce que ce serait elles qui auraient alimenté l'anthropologie qui rend possible la destruction de la nature, au sens où nous serions habités par cette folie qui consiste à croire que nous pouvons dominer la Terre, puisqu'au fond, nous avons reçu le mandat de le faire de Dieu, en régime chrétien, en régime biblique, disons. Voilà. Alors, mon point de vue, c'est qu'il faut prendre très au sérieux cette accusation, parce qu'elle interprète d'une certaine manière le verset, et cette manière de l'interpréter habite la tradition chrétienne. Elle n'est pas étrangère du tout. La question, c'est, dit-elle le tout de la tradition chrétienne et de l'expérience chrétienne? Et ma réponse, de nouveau, est non. C'est une expérience ambiguë dans laquelle il y a un discernement à opérer, que le christianisme a opéré sur lui-même. Et donc, le christianisme a accepté, à mon avis, d'entrer en crise par rapport à lui-même. Au fond, c'est la crise que le pape François est en train de lui faire subir en ce moment, pour réussir à, petit à petit, guérir de cette pulsion de l'indemne et du sacré qui l'habite, et qui le conduit à interpréter Genèse 1:28 dans le sens d'une domination destructrice, et au fond, d'une domination de propriétaire privé. Je suis le propriétaire privé de la terre, et donc je peux la détruire, c'est la bouzousse, pour se guérir de ça, de cette pulsion dévoratrice, afin d'entrer dans un cheminement de sainteté, qui est lui, au contraire, disons, du côté du mounous et des communs, et c'est ça qui me fait arriver à la question des communs, c'est-à-dire de l'acceptation de cette aventure extrêmement risquée, sans garantie, qui consiste à croire que l'altérité, que ce soit la femme du côté des hommes, que ce soit le non-humain du côté des humains, ou que ce soit Dieu du côté de l'ensemble de la création vis-à-vis de Dieu, devant Dieu, que cette altérité-là n'est pas une menace, mais la promesse, une promesse heureuse, disons. Alors, si on essaie de détailler un tout petit peu ce que peut signifier ce chemin de sainteté alternatif, alors, ce qu'on constate, c'est qu'il a partie liée avec la question des communs. Alors, pour parler un tout petit peu des communs, et c'est la quatrième grande catégorie, j'ai introduit le privé, le tribal, le public. La quatrième grande catégorie, c'est le commun. Avant d'en chercher les racines, à la fois dans le droit romain et dans la tradition biblique, je peux rappeler la manière dont les communs sont compris par les économistes, disons, néoclassiques, les économistes contemporains. Donc, dans les années 50, les économistes néoclassiques, par exemple Paul André Samuelson, héritent au fond du droit, parce que ce sont des distinctions qui proviennent du droit, et donc finalement du droit grégorien, du droit alcanon, héritent du droit la partition entre bien privé et bien public. Et des gens comme Samuelson, dans les années 50, vous disent, ben voilà, tout bien et service, c'est soit privé, soit public. S'il est privé, il est géré par la sphère marchande. S'il est public, il est géré par la bureaucratie d'État. À quoi reconnaît-on qu'un bien est privé ou public ? Alors, pour les économistes néoclassiques, le critère de distinction est très simple. Un bien est privé si sa consommation est rivale. Autrement dit, si je bois de ce café dans ce bol, vous ne pouvez pas en boire, Natacha, c'est vous ou moi. Mm-hmm. La consommation est rivale. En revanche, l'accès à la ressource peut être régulé, par exemple par un prix. Il se peut que je doive acheter ou payer pour avoir du café, ou une taxe, ou peu importe. Si la consommation est rivale et l'accès peut être régulé, c'est réputé être un bien privé. Pourquoi ? Parce que vous pouvez en faire une marchandise avec un prix de marché. En revanche, si la consommation n'est pas rivale et l'accès ne peut pas être régulé, c'est, ou très difficilement, c'est un bien public. Alors, qu'est-ce qu'un bien public ? Un exemple, le soleil. Le fait que j'aille bronzer au soleil n'empêchera pas Natacha d'aller bronzer. Et c'est très difficile d'aller mettre un policier tous les 10 mètres carrés sur la surface de la planète pour vous obliger à vous acquitter d'une taxe si vous allez bronzer au soleil. Donc, l'accès ne peut pas être régulé. Donc, ça, c'est un bien public. Alors, cette partition donc héritée du droit, de manière évidente, a structuré en fait l'analyse économique pendant une bonne cinquantaine d'années, jusqu'à ce qu'un certain nombre des politologues, pas des économistes, et ce n'est pas du tout un hasard à mon avis, et au premier rang desquels Elinor Ostrom, ait fait valoir que cette vision blanc-noir était extrêmement simpliste et qu'il y avait au moins deux autres catégories de biens. Donc, Elinor Ostrom, c'est une nord-américaine du côté de Chicago, ou de Minnesota plutôt, politologue et qui a travaillé avec des économistes et qui a passé sa vie à étudier des expériences de communs réussis. Alors, par exemple, des systèmes de pêcherie, des systèmes d'irrigation, des étangs, etc. Alors, donc la troisième catégorie qu'elle introduit, Elinor, c'est le commun, ou commons en anglais. Alors, qu'est-ce qu'un commun? Si on reprend les deux critères de distinction que j'avais déjà utilisés, c'est-à-dire la consommation est-elle rivale, l'accès est-il régulé, un commun, c'est un bien dont la consommation est rivale, comme pour les biens privés, mais dont l'accès ne peut pas être régulé, comme pour les biens publics. Alors, exemple, un étang. Pour regarder les étangs dans lesquels on fait de la pisciculture en Guinée forestière. Je donne cet exemple parce que je les ai visités du côté de Nzélékolé, qui était le foyer de l'épidémie Ebola en 2014. Un étang, imaginez une tribu guinéenne qui vit de la pêche de cet étang parce qu'on est dans la forêt, on ne peut pas faire des vaches en forêt, et on est trop loin du... On ne peut pas aller pêcher le poisson. Donc, ce sont des tribus qui ont un manque d'apport en protéines chroniques. Et donc, la pisciculture est indispensable pour qu'elles survivent, parce qu'elles trouvent la protéine animale dans le poisson. La consommation est rivale. Si je vais braconner la nuit, je pêche tous les poissons, ou en tout cas, tous les poissons qui peuvent se reproduire, et l'année suivante, il n'y a plus de poissons. Et en revanche, l'accès est très difficile à réguler, parce qu'on ne pouvait pas mettre un garde forestier derrière chaque arbre sur le rivage de l'étang pour vérifier que personne ne va braconner la nuit. Donc, vous êtes obligé de penser et de mettre en œuvre collectivement des règles et des institutions qui vous permettent d'administrer collectivement, communautairement, pourrait-on dire, cette ressource commune qu'est l'étang. Et vous en faites un commun, au sens de Linnaeus-Ström. Ça n'est pas un bien privé, personne n'en est le propriétaire privé. Ça n'est pas un bien public, ce n'est pas la chose de l'État, et ce n'est pas la bureaucratie d'État qui le gère. C'est une communauté. Et puis, Linnaeus-Ström introduit une quatrième catégorie de biens, qui sont ce qu'elle appelle, elle, des biens à effet club, les club goods en anglais, les club commodities, et que moi, j'appelle des biens tribaux, qui sont typiquement, par exemple, ce genre d'objet, le téléphone, là, l'iPhone que j'ai ici. Voilà. Pourquoi ? Parce que ce sont des biens dont la valeur est intrinsèquement liée au fait qu'ils vous font entrer dans un réseau. Et la valeur augmente avec la taille et la densité du réseau. Donc, si je suis seul au monde à avoir un téléphone, personne ne peut m'appeler, je ne peux appeler personne, ça n'a aucun intérêt. En revanche, si nous sommes 7 milliards connectés au même réseau, alors avoir un téléphone devient très intéressant. Alors, quelle est la définition d'un bien club? Un bien club, c'est un bien dont la consommation n'est pas rivale, comme pour le bien public, mais dont l'accès peut être régulé, comme pour le bien privé. Donc, vous voyez, vous avez deux critères. Sur chaque donc consommation rivale ou accès régulé, sur chaque critère, vous avez deux options, oui, non. Ça vous donne quatre catégories de biens, privé, public, commun et bien tribal, bien club. Alors, un exemple de bien à effet club, de bien tribal, c'est le club d'échecs. Pour entrer dans un club d'échecs, il se peut que je doive m'acquitter des frais d'inscription. Donc, ça, c'est la régulation de l'accès. Mais une fois que je suis dans le club, je n'empêche personne de jouer. Au contraire, je viens faire un partenaire de plus pour ceux qui jouent aux échecs. Voilà. Et donc, si on repense un tout petit peu à la combinatoire dont je vous parlais il y a 20 minutes maintenant, et je vais bientôt m'arrêter, ce que j'essaie de dire, c'est que le post-libéralisme essaye de ramener la totalité des biens matériels ou immatériels, symboliques, avec lesquels nous vivons, au statut de marchandises privées, le premier type de biens, les biens privés. Pour cela, il assujettit le public à sa propre pulsion. Et donc, il essaye aussi de transformer les biens publics en des biens privés. Donc, ça, c'est le grand thème de la privatisation. Exemple flagrant, ce qui s'est passé en Grèce entre 2010 et 2015. Vous savez qu'au nom du remboursement de la dette, qui n'a pas été possible, et au nom du ratio dette publique sur PIB, qui n'a pas baissé, donc ce n'était pas ça qui était visé. Et donc, on a imposé, la Troïka a imposé à la Grèce un plan d'austérité draconien qui a amputé le PIB grec d'un quart. Hein, moins 25% du PIB en 5 ans, ce qu'aucun pays européen n'avait vécu par temps de paix depuis un siècle. Et pour rembourser la dette, on a contraint l'État grec à privatiser la totalité de ses aéroports, à privatiser une île et à vendre un bout du port du Pirée. Donc ça, c'est la privatisation en marche, vous voyez, c'est voilà, au nom de la dette. Ce n'est pas du tout un hasard que ce soit lié à la dette. Alors, donc là, ce que j'essaie d'esquisser tout à l'heure, c'est cet agenda politique de privatisation du monde qui essaie d'utiliser comme auxiliaire le public, l'instance publique, l'État pour parvenir à ses fins et lui-même autodestructeur et conduit les sociétés, les plus pauvres comme les plus riches, à chercher un refuge dans les biens tribaux, dans le tribal, pour recréer du lien social là où il est déchiré par la privatisation des trois grandes familles de biens au sens de Polanyi que sont la terre, ses ressources écologiques, la monnaie et le travail. Voilà. Alors, première remarque qu'il faut faire immédiatement par rapport à la taxinomie d'Emil Nordstrom, évidemment, aucun bien n'est intrinsèquement privé, public, commun ou un bien effet club. Ça, là-dessus, il y a un naturalisme impensé de la part des économistes néoclassiques dont il faut évidemment sortir immédiatement. Pensez par exemple à une piscine. Si vous êtes habitué à aller nager dans les piscines parisiennes à midi, vous savez bien qu'il y a un problème de congestion. Vous êtes obligé de faire du slalom. Et donc, ce n'est pas vrai que la consommation n'est pas rivale. Assez souvent, c'est quand même lui ou moi. Et l'accès peut être régulé ou non. C'est une décision. Vous pouvez rendre l'accès gratuit, vous pouvez rendre l'accès payant. De la même manière, pour donner un autre exemple, l'éducation. L'éducation en Europe a été pendant des siècles un bien privé, réservé à un tout petit nombre qui étaient éduqués par leurs précepteurs. Et puis, petit à petit, c'est devenu un bien aristocratique, la noblesse se faisait éduquer. Et puis, au XVIIIe siècle, l'État a décidé de prendre en charge l'éducation de nos chers têtes blondes. Donc, elle est devenue un bien public. Mais à la fin du XIXe, comme vous le savez, on était en plein dans cette bagarre entre le hussard noir de la République, l'instituteur de village et le curé, autour justement précisément de l'éducation des enfants. Et au fond, on pourrait traduire cette bagarre dans les termes suivants. L'enjeu de la bagarre, c'était l'éducation doit-elle être un bien tribal, c'était le point de vue de l'Église, ou un bien public, c'est le point de vue de la Troisième République. Et comme vous vous en doutez, depuis quelques années maintenant, depuis quelques décennies, l'éducation, y compris en France, est en train, doucement mais sûrement, de redevenir un bien partiellement privé, partiellement tribal, à mesure que, à force de ne plus investir dans l'éducation publique, nous la laissons s'effondrer. Oui, et donc, je donne cet exemple pour dire une piscine, c'est intrinsèquement ni privé, ni commun, ni public. L'éducation a été considérée par notre société comme privée, puis publique, puis de nouveau privée, tribale. Bon. Donc, une même ressource peut changer de statut. Et ceci signifie que, de mon point de vue, en réalité, le statut qu'on accorde à une ressource, qu'elle soit matérielle ou symbolique, c'est une décision politique. C'est une décision au terme de laquelle la communauté qui prend cette décision s'engendre à elle-même comme étant la communauté qui va prendre soin, ou non, de cette ressource, comme public, comme privé, comme commun ou comme bien tribal. Du coup, la grande question devient... Pour nous, quels sont les biens que nous voulons honorer comme des communs? Quels sont les biens que nous voulons transformer en marchandises privées? Quels sont les biens auxquels nous voulons accorder un statut de bien public lié à l'État? Et quels sont les biens avec lesquels nous sommes à l'aise si nous en faisons des biens tribaux? Vous voyez que ça, c'est un enjeu colossal. Et avec cette grille de lecture, on pourrait relire une bonne partie de nos débats économiques et politiques depuis plusieurs décennies. Si je vais encore un cran plus loin, je pose la question, j'ai dit au fond, à quoi peut-on reconnaître un commun là-dedans? Le commun, ce n'est pas tellement la ressource elle-même, puisque la ressource, n'importe quoi peut devenir un commun si nous décidons d'en faire un commun. Alors, quelques exemples, si ce n'était pas clair pour vous, Internet aujourd'hui regorge de communs dans tous les sens. Wikipédia est un grand commun, manifestement. Ce n'est pas un bien privé, ce n'est pas l'État qui gère Wikipédia, c'est une communauté d'internautes dans laquelle, j'ai découvert ça d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, il y a beaucoup de personnes qui contribuent à Wikipédia souffrent, ou en tout cas sont caractérisées par le syndrome d'Asperger, ça c'est intéressant. Wikipédia est un grand commun, les logiciels libres sont des communs. Sur Internet, on a inventé aussi, vous connaissez peut-être ça, le copyleft. Donc c'est un droit de propriété sur, par exemple, une création artistique qui est mise... Alors, livré au, entre guillemets, public, bien que ce n'est pas public au sens de l'État, qui est livré au public, que vous avez le droit de réutiliser, par exemple, si c'est une chanson ou un morceau de musique, à condition de ne jamais le privatiser. Donc, j'ai le droit de le reprendre à mon compte et d'en faire ce que je veux, de le modifier, de l'insérer dans une œuvre artistique plus grande, peu importe, mais à condition de ne jamais en faire un bien privé. Donc, ça s'appelle le copyleft, exactement le contraire du copyright, et vous entendez bien le jeu de mots qui est derrière. Donc, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un commun dans toute cette affaire? C'est une ressource matérielle ou symbolique. Un code informatique, c'est une ressource symbolique. Une communauté qui s'est auto-engendrée en désignant cette ressource comme son commun et des règles d'appropriation collective du commun. Et c'est là que ça devient le plus intéressant, c'est-à-dire que finalement, ce sont ces règles-là qui importent. Et c'est l'examen de ces règles qui permet de déterminer si une communauté considère que telle ressource est un commun ou non. Alors, dans le cas de la propriété privée, je l'ai dit, l'essence juridique de la propriété privée, c'est l'exclusion de l'autre. C'est-à-dire, moi, je suis le propriétaire de ceci à l'exclusion de tout autre. Tout le monde, personne, pardon, n'a accès à cette ressource, sauf moi. Donc, c'est l'exclusion de l'altérité. Les règles qui président, disons, à l'administration d'un commun, d'une certaine manière, c'est le contraire. Et Elinor Ostrom, dans ses travaux empiriques, a dressé une liste de 8 grands critères dont elle a observé sur 30 ans d'enquête qu'ils sont très généralement vérifiés pour les communs qui marchent, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne dépérissent pas très rapidement. Qui est une espèce de méta-règle sur les règles, sur les 7 autres règles. Alors, cette méta-règle dit, écoutez, quelle que soit la qualité des règles qu'on s'est données pour administrer ce commun, il viendra tôt ou tard un jour où nous serons en conflit d'interprétation des règles. Alors, voici la règle à partir de laquelle nous allons régler notre conflit. Et la règle de règlement des conflits, de gestion des conflits, est énoncée à l'avance, ex ante. Elle doit être transparente, connue de tous et facile à mettre en œuvre. Donc, c'est ce qu'observe Elinor Ostrom. Quand je suis allé inspecter, enfin, en tout cas observer les étangs en Guinée forestière, j'ai demandé à mes interlocuteurs guinéens, mais alors, avec votre gestion des poissons dans l'étang, c'est une gestion très compliquée parce que c'est une zone où il n'y a pas d'électricité. Donc, lorsque le poisson est sorti de l'étang, vous êtes obligé de le consommer le jour même parce que vous ne pouvez pas le conserver. Donc, sortir le poisson de l'étang est un geste important pour la communauté parce que il faut que vous puissiez le vendre dans la journée à un prix intéressant pour la communauté. Sinon, il est. Alors, vous allez le manger, mais je veux dire, il est perdu. Voilà. Et donc, j'ai demandé, alors, quand vous n'êtes pas d'accord sur cette décision très délicate qui consiste à sortir le poisson, comment vous faites? Alors, ils m'ont dit, ah, mais monsieur le chef économiste, posez des bonnes questions. Et ils m'ont dit, voilà ce que nous faisons. Nous avons désigné à l'avance un vieux sage du village d'à côté, à 20 km, qui n'a aucun conflit d'intérêt avec nous. Et c'est à lui qu'on posait la question de régler notre conflit au cas où nous n'arrivons plus du tout à nous entendre sur la manière dont nous devons mettre en œuvre les règles sur lesquelles nous sommes par ailleurs d'accord pour gérer le poisson. Donc, ce qu'il y a là-dedans comme expérience, je trouve ça assez extraordinaire, c'est une grande sagesse institutionnelle qui est, quelle que soit la qualité des règles que nous nous donnons, arrive toujours un jour où il y a un conflit herméneutique de ces règles. Et la décision qui a été prise ex ante de trouver un procédé par lequel on va essayer de régler le conflit sans que ça dégénère dans la violence. Voilà. Alors, dans le cas de ces Guinéens, on fait appel aux vieux sages du village d'à côté, mais on pourrait poser la question, si vous regardez la manière dont on a géré la grande crise de la dette publique grecque en Europe, quelle est la méta-règle au sein de la zone euro lorsque deux pays ne sont pas d'accord sur l'application des règles, par exemple l'Allemagne et la Grèce, au hasard. En fait, on n'a pas de méta-règle. On ne sait même pas d'ailleurs comment on sort de la zone euro dans le droit européen. Alors que, bon, ça c'est un autre critère mis en lumière par Elinor Ostrom. Dans les 8 critères, il y a toujours celui de, il faut que les conditions d'entrée ou de sortie de la communauté soient très très clairement définies pour que ça tienne la route quelques années ou quelques décennies. Voilà, et donc en zone euro, d'une certaine manière, on est d'une naïveté institutionnelle désarmante par rapport à la grande sagesse de paysans guinéens qui, eux, avaient bien compris que s'ils n'ont pas recours à un procédé déterminé à l'avance pour régler leur conflit herméneutique, ça se termine mal. Alors, du coup, et je vais m'arrêter là pour qu'on puisse discuter, la pointe de ma thèse, c'est de dire, au fond, ce qui détermine un commun, c'est le statut herméneutique des règles qui le gèrent, ou qui permettent de l'administrer. Si ces règles elles-mêmes sont soumises à une délibération et, disons, ont un statut de commun herméneutique, c'est-à-dire leur sens n'est pas réputé univoque, obvi et pouvant être imposé à chacun sans délibération, alors c'est un commun herméneutique et ce qui est administré par ces règles-là est un commun. Si au contraire, vous entretenez la fiction que la loi délivre un sens unique, obvi, à la surface des mots, qui n'a pas besoin d'entrer dans un cercle herméneutique et donc qui est affranchi de tout conflit herméneutique, alors vous êtes plutôt du côté du public. Et ça, c'est le totalitarisme, par exemple. Si vous prétendez que la règle est écrite dans un langage que je suis le seul à maîtriser, c'est mon langage et ma règle pour moi, c'est le langage privé, alors vous êtes dans la privatisation, du moins. Et vous voyez bien que c'est impossible. Il n'y a aucun langage privé qui permet de dire aux autres « vous êtes exclu de l'usage de ma propriété ». Donc, en réalité, la propriété privée fait toujours appel au public. Vous avez toujours besoin d'un État pour faire respecter les contrats privés par la police. Vous avez toujours besoin du droit public pour imposer le respect du droit privé. Voilà. Alors, du coup, c'est une manière de dire le privé lui-même est une catégorie fondamentalement self-defeating, qui a absolument besoin de l'alliance avec le public pour pouvoir entretenir la fiction qu'il existe. Et le tribal, ben, ce sont des règles qui ne sont comprises que par la tribu et qui ne s'imposent qu'à la tribu, puisque les ennemis hors de la tribu, eux, ont droit à la violence comme principal rapport au monde. Voilà. Alors, là-dedans, la tradition chrétienne, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Ce que j'essaie de montrer, c'est que si vous relisez, par exemple, les Actes des apôtres et l'Évangile de Luc, dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Luc et les Actes des apôtres ont très probablement été écrits par la même communauté primitive dans la deuxième moitié du 1er siècle. Vous y voyez apparaître la catégorie des communs de manière extrêmement explicite, à la fois dans la mise en scène de la scène eucharistique et dans la description de l'Église primitive. La scène eucharistique, c'est le Christ, le Messie, donne son corps en nourriture comme commun. Donc, il rend possible la dévoration du monde et il se laisse dévorer par nous pour nous guérir de la pulsion de la dévoration. Et ce faisant, il donne son corps comme commun. Et l'Église primitive, dans les Actes des apôtres, qui vit de ceci, de cette expérience-là, c'est-à-dire du fait que nous sommes reliés les uns aux autres par ce qui nous met, ce que nous avons en commun et que nous menaçons toujours de détruire par la privatisation, par la dévoration. L'Église primitive essaye de vivre des communs et met tout en partage. Donc, c'est, si vous connaissez ces textes-là, par exemple, au chapitre 2 du livre des Actes, une description assez idyllique de l'Église primitive qui décrit une Église où tous les biens sont partagés, mis en commun. Voilà. Et c'est ce type de texte-là qui a inspiré, vous le savez sûrement, à la fois certains réformateurs allemands, Thomas Münzer, au XVIe siècle, et puis évidemment les socialistes français au début du XIXe, qui étaient tous en fait des proto-cathos très très inspirés et parfois tout à fait explicitement par le modèle entre guillemets de l'Église chrétienne primitive. Voilà. Pour que ceci soit vraiment un sens, il faut qu'évidemment le texte biblique lui-même fonctionne comme un commun herméneutique, et c'est ce que j'essaie de montrer, c'est-à-dire qu'il possède en lui-même, dans son écriture même, les ressources pour empêcher le lecteur d'avoir une lecture littérale ou en tout cas dogmatique du texte qui en ferait un public dont il pourrait prétendre que le sens est univoque, obvi et s'impose à tous sans délibération collective. Alors je donne des tas d'exemples, mais les exemples privilégiés, ce sont les paraboles qui sont toutes, en tout cas la plupart, construites comme des petites énigmes. Ce sont des récits énigmatiques. Et j'en analyse une en particulier où j'essaie de montrer qu'au fond, le narrateur s'est débrouillé pour que le lecteur soit incapable de trouver de manière triviale le sens de la parabole. C'est-à-dire que dans la parabole, vous avez différentes interprétations de la parabole qui sont proposées et ça aurait été très facile en fait pour le narrateur d'en imposer une. Et en fait, manifestement, l'écriture de la parabole est conçue pour qu'il soit impossible d'en imposer une et obliger le lecteur à admettre qu'il y a au moins deux façons différentes d'interpréter la parabole et que donc il entre lui-même en crise comme lecteur herméneute et il entre dans un débat délibératif avec les autres lecteurs. Voilà, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse discuter.